Les cours du Collège de France, Jean-François Joanny, chaire matière molle et biophysique.
Bonjour à tous, bienvenue donc à ce cours que je vais faire cette année sur ce qui fixe le volume d'une cellule. Juste quelques points, donc le cours a lieu maintenant, après le cours il y a un séminaire qui sera fait aujourd'hui par Morgane Delarue. C'est des séminaires qui vont avoir lieu toutes les semaines et qui sont très en relation avec le programme du cours. Et d'ailleurs, beaucoup des travaux dont je vais parler, vous aurez des séminaires qui vous donneront certainement bien plus de détails que ce que j'ai pu le faire moi. S'il y a des questions, je suis très content, donc surtout, ne vous limitez pas. Ce que je veux faire, c'est vous parler du volume de cellules. La façon dont j'ai commencé à faire ça, j'ai regardé quand les gens avaient commencé à s'intéresser à ce que pouvait être le volume des cellules. Et donc, je vais commencer comme ça, de façon un peu historique. Aujourd'hui, ça sera une introduction assez qualitative. Et puis, la semaine prochaine, je viendrai à des choses un peu plus physiques. Donc, le premier cours, je l'ai appelé volume. Masse et densité des cellules. Alors la première référence où j'ai trouvé qu'on parlait du volume de cellules, c'est en fait la même personne que celle avec qui j'ai commencé mon cours l'année dernière. C'est un biologiste qui s'appelle Edmund Winson. Qui est un biologiste américain qui en 1925 a écrit un livre qui s'appelle The Cell. In Development and Heredity. Alors, c'est un livre gigantesque, il y a 1250 pages. J'ai évidemment pas lu les 1250 pages, mais j'ai cherché ce qui portait sur le volume des cellules. Et la première question que se pose Wilson, alors j'ai pris un article récent qui résume ça aussi, c'est ce qui est schématisé ici. Quand un organisme croît, il y a deux façons de faire. Une façon de faire, c'est qu'on a un nombre de cellules constant et que les cellules deviennent plus grosses. Et puis une autre façon de faire, c'est que la taille des cellules est à peu près constante et on augmente le nombre de cellules. Et Wilson cite une expérience, alors une expérience qui a été faite en 1904 par Théodore Boveri. Théodore Boveri, c'est un des fondateurs de la biologie cellulaire, si ce n'est le fondateur de la biologie cellulaire. En tout cas, Michel Bornin, sa Curie, considérait que c'était vraiment un des grands fondateurs de ce domaine. Et Boveri a fait une expérience que j'ai trouvée assez amusante. Il a pris des personnes qui étaient naines, des personnes qui étaient géantes. Il a regardé les cellules de personnes qui étaient naines et de personnes qui étaient géantes. Et il trouve que la taille des cellules est la même. Après, il y a tout un tas de choses qui se sont accumulées sur ce fait-là. Et pour la plupart des organismes, en tout cas les organismes multicellulaires, les cellules gardent la même taille. Et quand un organisme croît, c'est le nombre de cellules qui croît. Donc ça a un sens de se poser la taille d'une cellule parce qu'elle est bien définie au cours du développement. La deuxième chose que note Wilson, il considère que c'est acquis, ça que c'est le nombre de cellules qui croît. La deuxième chose qu'il note, c'est qu'il y a une très grande différence entre les tailles d'organismes, des cellules dans des organismes différents. Alors, je vous ai mis un schéma ici qui est tiré de son livre. Ça, c'est un globule rouge et puis il va jusqu'à des bactéries. Il y a des très grosses cellules. Alors pour nous, les très grosses cellules, c'est peut-être les neurones parce qu'ils ont des axones qui vont très loin. Celle qu'il cite, lui, c'est les œufs des gros oiseaux, donc un œuf d'autruche. Et puis ça, c'est les grosses cellules. Et puis les petites cellules, c'est des bactéries qui font un micron. Les œufs d'autruche, ils font 10 cm ou peut-être même un peu plus. Et le chiffre qu'il donne, c'est qu'il y a un rapport de 75 000 dans les tailles des cellules. Évidemment, il se pose la question de pourquoi des organismes différents ont des cellules de taille différente. Alors la première réponse, il dit ben, il y a des classes d'animaux qui ont des grandes cellules et des classes d'animaux qui ont des petites cellules. La comparaison qu'il fait, c'est qu'il dit qu'en général, pour les mêmes types de cellules, les cellules des amphibiens sont plus grosses que les cellules des poissons, des reptiles et des humains. Donc c'est les amphibiens qui ont les plus grandes cellules. Et après, bien sûr, il se pose la question de qu'est-ce que c'est le paramètre qui pourrait faire que les amphibiens aient des cellules. Il fait des comparaisons sur les insectes et sa conclusion, c'est que les insectes qui sont paresseux et qui ne bougent pas beaucoup ont des cellules grosses et les insectes qui sont très actifs ont des cellules petites. Alors les paresseux, c'est les sauterelles et les criquets et les actifs, c'est les guêpes et les abeilles. Donc pour lui, ça s'est relié à l'activité de l'animal. Alors j'avoue que je n'ai absolument aucune notion de savoir si ça est fiable ou pas fiable, mais en tout cas, c'est la comparaison que lui y fait. Tout ça pour dire donc que dans des organismes différents, on voit des cellules de taille très différentes, et puis même dans un organisme donné, les types cellulaires peuvent avoir des tailles différentes. Donc voilà pour M. Wilson, et je reviendrai sur lui à la fin du cours. La remarque suivante, alors qui est aussi assez bien connue, c'est que si on regarde un type cellulaire donné, ou si on regarde dans un tissu, les cellules ont une variabilité de taille qui est très faible. Ça veut dire que dans un tissu, la taille des cellules est bien définie. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a un mécanisme qui fixe la taille des cellules dans un tissu. Et ça, c'est un problème intéressant. Il y a une deuxième chose qui va avec, c'est que la taille est régulée, parce qu'autrement, il y aurait une très grande distribution de taille. Donc les questions qu'on a envie de poser, c'est quels sont les mécanismes qui fixent la taille et quels sont les mécanismes qui régulent la taille. Alors dans cet article, qui est le groupe de Mark Hirschner à Harvard, il donne deux exemples. Donc voilà des cellules humaines et voilà des tailles de cellules humaines. Les plus petites, c'est les cellules bêta du pancréas et les plus grandes, c'est des adipocytes. Et ce qu'ils expliquent, c'est que c'est la fonction pour ces cellules-là qui fixe la taille. Alors les cellules du pancréas, elles sont là pour sécréter l'insuline et ce qui a été montré, et il cite tout un tas de références, c'est que la sécrétion de l'insuline, elle dépend du volume de la cellule bien plus de l'activité métabolique de la cellule. Ça veut dire que plus les cellules sont grosses, plus elles sécrètent de l'insuline. Après, ce qui a été montré aussi, c'est qu'il y avait un taux de sécrétion optimal de l'insuline. Donc pour eux, c'est le taux de sécrétion de l'insuline optimal qui va fixer le volume optimal des cellules. Donc ça, c'est le cas des cellules bêta du pancréas. Les adipocytes, c'est les cellules qui synthétisent les lipides. Là, c'est plus, en tout cas pour moi, plus naturel. Plus les cellules sont grosses, plus leur métabolisme est grand. Et même si on ramène à l'unité de masse, le métabolisme est plus important si la cellule est plus grosse. Donc plus la cellule est grosse, plus elle va synthétiser de lipides. Ceci dit, quand elles sont trop grosses, elles perdent la sensibilité à l'insuline. Et donc le volume de la cellule résulte d'un équilibre entre la synthèse de lipides et puis la sensibilité extérieure à l'insuline. Ce que ça veut dire ça, c'est que ce n'est pas des facteurs extérieurs qui fixent le volume de ces cellules-là, c'est vraiment la fonction qu'elles doivent avoir dans le corps. Il y a un troisième exemple, alors je viens de l'Institut Curie, c'est les cellules cancéreuses. Alors, les cellules cancéreuses, et il y a Jacques Pro au premier rang, on a eu des très très grandes discussions avec un médecin de l'Institut Curie qui s'appelle Xavier Sastre. Et Xavier Sastre, il regardait une image et puis il disait les cellules cancéreuses, elles sont là, là et là. On n'a jamais compris pourquoi, mais dans cette histoire-là, il y avait deux questions qui revenaient. C'était la taille des cellules. Les cellules cancéreuses sont plus grandes que les cellules non cancéreuses correspondantes, et il y a une distribution de taille plus grande aussi. Je vais mettre hétérogène, mais ce que ça veut dire, c'est que la distribution de taille est plus grande. Alors on peut se poser la même question, c'est-à-dire on peut dire peut-être que c'est l'environnement du tissu cancéreux qui fait que les cellules cancéreuses sont différentes. En fait, si on fait pousser des cellules cancéreuses et des cellules non cancéreuses dans le même environnement, on retrouve le même résultat. Il y a une hétérogénéité de taille qui est plus grande que celle des cellules saines. Donc dans tous ces cas-là, c'est vraiment une région intrinsèque qui fixe le volume et l'hétérogénéité de taille. On peut penser à d'autres choses. Il pourrait y avoir des facteurs extérieurs, comme par exemple des facteurs de croissance qui pourraient réguler la taille de la cellule, ou même, je suis un peu plus porté là-dessus, mais des contraintes mécaniques qui aussi seraient très importantes pour la taille de la cellule. Dans tous ces exemples-là, ces facteurs-là sont très petits. Un troisième point important, c'est que la taille de la cellule n'est pas constante, elle augmente au cours du cycle cellulaire. Pour une cellule qui vient de se diviser est petite, et puis elle augmente. Idéalement, elle a exactement deux fois le volume au moment où elle se redivise, elle se casse en deux, et la cellule se propage comme ça. Alors le cycle cellulaire, j'ai une image sur la slide d'après, il est divisé en plusieurs phases. En fait, il y a surtout une phase où la cellule croît, c'est la phase G1. Il y a une croissance après, dans les phases S et G2, mais c'est surtout la croissance en phase G1 qui compte. Et beaucoup des articles qui s'intéressent à la croissance des cellules, en fait, s'intéressent à la croissance des cellules pendant la phase G1. Alors, la croissance des cellules, ça veut dire deux choses. Ça veut dire quel est le taux de croissance, à quelle vitesse elles croissent, et puis aussi combien dure le cycle cellulaire. C'est la croissance du volume et la durée du cycle cellulaire. Alors, comme tout à l'heure, ces deux paramètres doivent être fixés par des contraintes qui soient biologiques ou physiques. Et puis aussi, il y a des mécanismes de régulation pour ces paramètres-là. Et ces paramètres ne sont pas tout à fait indépendants. Donc, il y a des couplages entre la croissance et la durée du cycle cellulaire qui sont une des choses qu'on discutera dans les cours qui viennent. Il y a un article très, très célèbre de deux personnes, alors je ne connais pas bien les noms, Kielander et Zetterberg. Ça, c'est un article des années 60. Je ne vais pas vous donner des références précises. Je mettrai sur le site web une liste de références générales pour tout le cours où il y a des articles de revue, par exemple celui-là, et puis où il y a des articles précis comme l'article de Kielander et Zetterberg. Ce qu'ont montré ces gens dans les années 60, c'est que si on mesure l'hétérogénéité de taille, j'ai envie d'appeler ça la polydispersité, des cellules à l'entrée dans la phase G1 et qu'on la remesure au moment où elle quitte la phase G1, l'hétérogénéité est bien plus grande à l'entrée dans la phase G1, c'est-à-dire juste après la division cellulaire. Alors voilà comment il le schématise. Ici, quand on rentre dans la phase G1, on a des cellules de toutes les tailles, et puis au moment où les cellules sortent, alors le cycle est là, la phase G1, il tourne à l'envers par rapport à ce dont j'ai l'habitude. On passe de la phase G1 à la phase S. La phase S, c'est la phase où on double l'ADN. Après, il y a une deuxième phase de croissance qui est G2. Et après, il y a la mitose. Pour la croissance, c'est surtout la phase G1 qui compte. Et quand on sort de la phase G1, les cellules ont des tailles qui sont bien, bien plus triées que ce qu'elles étaient à l'entrée dans la phase G1. Ça peut être dû à deux mécanismes. Ça veut dire quand même que des cellules petites et des cellules grosses ne passent pas le même temps dans la phase G1. Il y a deux mécanismes qui permettent de faire ça, alors qu'il appelle le temps et la croissance. Un des mécanismes, c'est que les cellules croissent à la même vitesse, mais que les petites cellules passent plus de temps dans la phase G1, et puis qu'elles atteignent une taille, qui est la taille qui est sélectionnée ici, à la fin de la phase G1. Un deuxième mécanisme possible, c'est que les petites cellules croissent plus vite, les grosses cellules passent plus lentement, le temps de passage dans la phase G1 serait fixé, et dans ce cas-là, c'est la différence de croissance qui fait le rattrapage entre les deux. En pratique, pour beaucoup de cas, c'est plutôt la première chose qui est observée. pas s'il faut dire caractéristique, mais une des propriétés de ce modèle quand même, c'est que la sortie de la phase G1, elle est fixée par une taille bien définie des cellules. Alors les cellules qui se comportent comme ça, c'est-à-dire qui sortent de la phase G1 ou dont la durée du cycle cellulaire est donnée par une taille, je vais utiliser le mot anglais parce que j'en ai pas trouvé qui correspond en français, les gens appellent ça des sizers, c'est des cellules qui mesurent leur taille. Ce n'est pas le seul mécanisme possible. Un deuxième mécanisme où la cellule ne mesure pas sa taille, mais ajoute un volume constant à la taille qu'elle avait. Alors je vous montrerai qu'au bout de deux ou trois générations, on arrive à une taille à peu près identique pour toutes les cellules, qui est celle du volume qu'on a rajouté. Ça, ils appellent ça un adder. Alors ce n'est pas très évident de voir comment une cellule peut être un adder, mais il y a des mécanismes qui ont été proposés et qui sont très clairs, et je vous en montrerai un ou deux. Puis il y a une troisième chose, qui est peut-être la chose la plus naïve auquel on peut penser, c'est que la cellule a une durée du cycle G1 qui serait constant, et donc ça c'est ce qu'on appelle un timer. Le timer c'est un peu plus dangereux parce que la taille des cellules, si on est naïf, elle croît exponentiellement, donc si on fait des erreurs et qu'on les met dans une exponentielle, assez vite ça diverge, donc ce mécanisme de timer souvent il est instable et donc les cellules ne peuvent pas l'utiliser. Tout ce que je raconte là, c'est bien, mais ça suppose une chose, ça suppose que la cellule sait mesurer son volume. Donc la question, c'est comment est-ce que la cellule mesure son volume? Alors j'ai repris les schémas du premier article que je vous ai montré. C'est des articles du groupe de John Scottheim, qui est professeur à Stanford et qui, à mon avis, est une des personnes qui a le mieux réfléchi à ce qu'est le volume de la cellule et comment il est régulé. Ce que distingue Scottheim, c'est trois types de mesures du volume de la cellule. Le premier, il est géométrique. Le deuxième, c'est par des facteurs externes. Et le troisième, c'est par titration de protéines. Alors, le modèle géométrique, parce qu'à partir de caractères géométriques, on mesure la taille. Dans la cellule, il y a une membrane. Beaucoup des processus de la cellule se font par la membrane. Il y a un certain nombre de processus qui se font en volume, et donc la taille, c'est le rapport du volume divisé par la surface. Et donc tous les processus qui font intervenir à la fois la surface et le volume ont une mesure naturelle de la taille. Il y a un deuxième mécanisme, qui sont des cellules où il y aurait des gradients de protéines à l'intérieur de la cellule. Si la longueur caractéristique du gradient est intrinsèque, la cellule peut comparer sa taille à cette mesure caractéristique du gradient. Le deuxième type de mécanisme, c'est des mécanismes externes. Ce que fait Scottheim ici, c'est qu'il met un mur solide au bout, donc la cellule croît, et puis qu'après, quand elle tape dans le mur, elle ne peut plus croître. Et donc ça, c'est un mécanisme qui fixe de façon externe à la cellule. C'est purement le fait qu'il ne peut pas passer à travers le mur qui fait ça. Un autre auquel on peut penser, c'est des effets osmotiques. La cellule compare sa pression osmotique avec la pression osmotique du milieu extérieur. Je vous en montrerai plusieurs pendant le cours. Ici, c'est un choc hyperosmotique, c'est-à-dire que le milieu extérieur a une force ionique, une densité ionique qui est plus faible que la cellule. Dans ce cas-là, l'eau rentre dans la cellule, donc ça c'est le point A, c'est celui qui est là, alors que ça c'est le point dont on était parti. Puis après, la cellule réagit et puis essaye de s'adapter de façon à ce que la densité à l'intérieur de la cellule ou sa taille rejoignent à peu près ce qu'elle avait au départ parce que autrement on perturberait tellement énormément de choses dans la cellule. Puis on peut le faire à l'envers, hein. Au lieu de mettre un milieu hypoosmotique, on peut mettre un milieu hyperosmotique, c'est-à-dire que rajouter du sel à l'extérieur. Dans ce cas-là, la cellule va se contracter. Ça, tous les effets osmotiques, on a envie d'être à peu près semblable à ce qui se passe à l'extérieur. La cellule se contracte et puis après elle s'adapte. Alors elle s'adapte par des processus actifs, c'est-à-dire des processus qui consomment de l'énergie pour revenir à sa taille initiale. Le troisième type de processus, qui est celui que je discuterai le plus dans le cours, parce que c'est quelque chose qui m'a un peu intrigué, comment est-ce qu'on arrive à faire ça, par titration de protéines. Alors par titration de protéines, ça veut dire qu'il faut mesurer la quantité de protéines et la comparer à quelque chose. Ce que j'essaierai de vous convaincre dans les deux prochains cours, c'est qu'il y a toute une phase où le nombre de protéines croît de façon exponentielle. Et puis, il y a un certain nombre de protéines dont le nombre dans la cellule est fixé. Alors il y a des molécules dont le nombre dans la cellule est fixé, que vous connaissez bien, c'est l'ADN, enfin au moins pendant une bonne partie du cycle cellulaire, donc ça, ça donne quelque chose auquel se comparer tant qu'on n'est pas dans la phase S, en particulier dans la phase G1. Puis il y a tout un tas de protéines qui sont reliées à l'ADN, par exemple le nombre d'histones ne croît pas comme le volume de la cellule, parce qu'une fois qu'on a saturé l'ADN, ça ne sert plus à rien de faire des histones. C'est pas tout à fait celle-là que les mécanismes dont je parlerai utilisent, mais ces exemples sont simples. Et donc si on a deux types de protéines, une qui croît comme le volume et une qui ne croit pas comme le volume, en faisant des réactions qui combinent les deux, on peut arriver à mesurer le volume de la cellule. Et c'est ce mécanisme-là que je décrirai en détail dans quelques cours. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce cours? Quel est le but du cours? C'est un peu de discuter le point de vue d'un physicien sur les mécanismes et les paramètres et les mécanismes de régulation qui fixent le volume de la cellule. Alors, comme le donne le titre, je ne parlerai pas que du volume, je parlerai de la masse sèche de la cellule. Donc la masse sèche, c'est ce qui reste quand on enlève l'eau. Et puis la densité de la cellule. Alors la densité, ça vous donne la masse de tous les composants par unité de volume qu'il y a dans la cellule. Il est clair que si, et ça va peut-être faire référence à des choses que va raconter Morgane, si la densité est très grande, c'est bien plus difficile de se déplacer, la cellule est bien plus visqueuse, les coefficients de diffusion sont plus grands, et ces choses-là font que la densité est aussi un paramètre très important. Donc ça va être les deux prochains cours. Après, je vous parlerai de la variation du volume au cours du temps, comment la cellule croît et comment la croissance est régulée. Et puis, il y a le deuxième aspect dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la longueur du cycle cellulaire, c'est-à-dire comment la cellule décide qu'il faut qu'elle sorte de la phase G1 ou qu'il faut qu'elle sorte de son cycle cellulaire. Et il y a tout un tas de travaux physiques qui ont été faits là-dessus que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant. Le dernier cours, je vais discuter quelque chose dont je n'ai pas trop l'habitude. C'est évidemment quand la cellule croît, par exemple, elle a besoin d'énergie. Et c'est les réactions chimiques qui lui donnent cette énergie. Donc la question, c'est quel est le rôle du métabolisme dans la croissance d'une cellule? Dans tout ce que je vais raconter jusque-là, je parlerai surtout de cellules eucaryotes et de cellules de mammifères, étant bien entendu que certains des résultats sont vrais pour des levures ou des bactéries. Alors je le mentionnerai parfois ou je montrerai des expériences parce que elles me paraissent plus illustratives que celles de cellules de mammifères, mais un peu mon but dans le cours, c'est de parler des cellules mammifères. Pour cet aspect de métabolisme, les travaux que j'ai trouvés les plus simples et les plus faciles à expliquer, et où il y a beaucoup plus de données, c'est des travaux sur les bactéries ou sur les levures. Donc je me focaliserai dans le dernier cours plutôt sur les bactéries et les levures pour discuter ces effets métaboliques. Donc voilà un début d'introduction très général. Maintenant, je voudrais être un tout petit peu plus précis sur un nombre de points. Mon premier point, c'est quelles expériences on peut faire pour mesurer le volume d'une cellule. Alors, les gens étaient extrêmement créatifs là-dessus, ont inventé tout un tas d'expériences dont je ne suis pas du tout spécialiste, et je ne prétends pas vous faire une explication détaillée de toutes les expériences. Celles que je vais montrer, c'est celles qui m'ont plu ou que j'ai trouvées particulièrement astucieuses, particulièrement originales, ou qui ont permis d'obtenir des résultats qui sont très, très originaux. Le premier, c'est cette méthode qui est schématisée ici, qui est l'exclusion de fluorescence. Mathieu Piel de l'Institut Curie, qui fera un des séminaires du cours, a fait des expériences magnifiques là-dessus. J'étais persuadé que c'était lui qui avait inventé la technique. Et en fait, non. J'ai trouvé cet article des années 80 où la technique est utilisée et expliquée presque dans la même façon que ce que l'explique Mathieu Piel. Donc voilà la figure 1 de l'article original. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un canal ici et ils font passer dans ce canal un flux de fluorescent dans lequel les cellules peuvent se promener. Si vous mesurez maintenant avec le laser ici, la fluorescence que vous excitez, elle est proportionnelle au volume que vous éclairez. Maintenant, si une cellule rentre dans la région où vous mesurez la fluorescence, si le fluorophore est bien choisi, il ne pénètre pas dans la cellule, Et dans ce cas-là, la cellule exclut la fluorescence de la région qu'elle occupe. Donc il y a un volume qui est égal au volume de la cellule où il n'y a pas de fluorescence. Et c'est ce qui est schématisé ici. Vous avez un trou dans la courbe de fluorescence. Il suffit d'étalonner. Et puis on mesure ainsi le volume de la cellule. Donc ça, c'est la version des années 80. La version de Mathieu Piel, elle est là. Lui, il le fait en posant une boîte de PDMS où il a fait un trou qui est en jaune ici sur une surface. Et puis, il met des cellules à l'intérieur. Donc, vous avez deux types de cellules. Ici, c'est une cellule qui est étalée sur la surface. Alors, vous la voyez de côté ici, puis vous la voyez par-dessus ici. Ça, c'est une cellule qui est en mitose. Les cellules en mitose, elles ont une grande tension. Et j'allais dire, c'est comme le capitaine Haddock. Quand il y a une tension, les objets ont tendance à devenir sphériques. Et donc, la cellule en mitose est sphérique. Puis, si vous regardez la fluorescence, sur la taille qu'il y a ici, alors il faut le faire pour, surtout le volume, hein, sur la taille qu'il y a ici, on voit bien que la fluorescence est exclue. Là, on exclut la fluorescence de la cellule en mitose. Il y a un autre objet ici. Il met des piliers pour éviter que le toit de la boîte s'effondre. Et donc, le pilier lui-même exclut la fluorescence. C'est pour ça que vous avez une masse noire ici qui montre l'exclusion de fluorescence. Ça permet de faire des mesures très précises du volume. On arrive à les faire de façon temporelle. Peut-être pas extrêmement rapidement, mais c'est quelque chose qui marche très très bien et qui est utilisé maintenant par pas mal de gens. Alors il y a des tas de vérifications. Vous pouvez vérifier que la fluorescence est proportionnelle à l'épaisseur, des choses comme ça. C'est ce qui est fait ici. Donc voilà un premier type de mesure que je trouvais un peu original. Il y en a un deuxième. Donc la première, c'est l'exclusion de fluorescence. La deuxième, c'est de faire un résonateur mécanique. Donc il y a pas mal d'articles qui utilisent ça. J'en ai cité deux ici. En fait, il y a toujours la même personne là derrière, qui est un dénommé Scott Manalis, qui travaille à Boston. Le résonateur mécanique, donc c'est une petite languette ici qui est fait dans du plastique en polymère, je devrais dire, c'est plus noble. Et puis on mesure la fréquence de résonance de cet oscillateur mécanique. La fréquence de résonance, quoi qu'on fasse, elle dépend de la masse de l'oscillateur. Donc on mesure la fréquence de résonance, sauf que dans l'oscillateur, on a fait un canal microfluidique ici. Au départ, on remplit le canal microfluidique d'un fluide, on mesure la fréquence, et puis ils ont tout un jeu là, que je n'ai pas regardé en détail, mais qui est indiqué de ce côté-là, où ils arrivent à diriger des cellules au milieu. Et quand ils dérivent les cellules, la masse de la cellule est différente de la masse du fluide qu'elle déplace. Ça, c'est comme la pression d'Archimède. Et quand on regarde le shift de la fréquence de résonance, on mesure directement, j'ai envie d'appeler ça la masse d'Archimède, c'est la masse de la cellule moins la masse du fluide déplacé. Donc c'est une mesure de la masse effective. Alors la masse effective, c'est la masse de la cellule moins le volume fois la densité du fluide. Alors c'est ce qui est fait ici. Hein. Vous avez la masse effective, puis vous voulez tracer ça en fonction de la densité du fluide. Maintenant, la relation est linéaire ici. Donc et je pense que même expérimentalement, c'est bien linéaire. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent deux points, ils utilisent deux fluides. Alors ce n'est pas tout à fait comme c'est marqué ici. Ils prennent un point où le fluide est moins dense que la cellule, un point où le fluide est plus dense que la cellule. Et là-dessous, on peut tout mesurer. Parce que si vous prenez ce point-là, c'est l'endroit où la densité du fluide est égale à celle de la cellule, mais c'est vous qui l'avez mis le fluide, donc vous savez quelle est sa densité. Si vous extrapolez à zéro, vous avez la masse de la cellule, puis si vous mesurez la pente, vous avez le volume. Ça, c'est une expérience. Il y a une expérience classique dans les laboratoires de physico-chimie qui sont des micro-balances à quartz. C'est des objets d'une précision absolument diabolique. Ça en mesure des couches monoatomiques sans absolument aucune difficulté. Les masses, la précision sur les masses, c'est du femtogramme. Si vous prenez une cellule d'un micron, c'est des femtolitres. Donc, comme la densité, c'est à peu près 1. On est un peu dans le bon ordre de grandeur. Les cellules sont plus grandes. Donc, si vous regardez ce qu'il y a là, c'est quelque chose comme 300, 500 femtogrammes. Alors, les expériences qu'il y a là, cette expérience-là, elle a été faite pour regardez au cours du temps l'évolution de la masse, et vous voyez que la masse, c'est la fréquence de résonance en fonction du temps, et la masse shift. Alors l'explication, c'est que la cellule croît, puis tant on a une deuxième qui arrive, une troisième qui arrive, et donc on voit les cellules différentes arriver. Ce qu'ils ont conclu, c'est que la vitesse de croissance dépendait du volume ou de la masse de la cellule dans ce cas-là. Donc ça, c'est une méthode que je trouve assez spectaculaire et qui, pour moi, est assez originale, de mesure de la masse, la densité et le volume, puisqu'on a les trois d'un coup sur la même manip. Alors il y a une troisième...
Une question, une deux. Ça marche bien si la dissipation ne change pas.
On est bien d'accord. Et c'est le problème de... Ils se sont pas trop inquiétés de la dissipation. Ceux qui font proprement, ils font toute la procédure que je viens de raconter. Dans l'expérience qu'il y avait dans le coin, ils mesurent la masse effective et puis ils se contentent de la masse effective. Donc suivant les cas, ils font différents types de manips. C'est vrai que dans le canal microfluidique, on perturbe l'écoulement, par exemple, aussi, des choses comme ça. Et ça fait une différence, je suis bien d'accord. Donc la troisième méthode qui est indiquée ici, c'est une méthode de mesure par diffusion Raman. Alors c'est même de la diffusion Raman stimulée. La diffusion Raman, c'est de la diffusion optique non résonante, c'est-à-dire on prend une molécule qui a deux niveaux d'énergie et on envoie un faisceau laser qui n'est pas résonant. Donc qui a une énergie plus grande, et puis on récupère un faisceau laser qui a une énergie plus basse que celle qu'on a envoyée, et la différence d'énergie, c'est la bande Raman. C'est pour ça qu'il y a deux faisceaux, un faisceau vert et un faisceau rose. Ça, c'est le faisceau pompe, et ça, c'est le faisceau qui a la résonance, qui vient faire l'effet stimulé et qui rend l'expérience extrêmement sensible. Il mesure trois bandes. Il mesure la bande de l'eau et il mesure la bande du CH2, il mesure la bande du CH3. C'est des molécules organiques qu'il y a dans une cellule. Donc il y a plein de groupements CH2, plein de groupements CH3. La base de leur analyse, qu'ils ont un peu calibrée sur des protéines modèles et sur des lipides modèles, c'est que dans la cellule, si on s'intéresse à la masse, il y a en gros trois choses. Il y a l'eau. Il y a les protéines et il y a les lipides. Le reste est là, et on n'est pas tout à fait à 100% comme ça, mais une de leurs grandes contraintes, c'est qu'ils imposent que la masse des trois est égale à 1, comme ils disent, c'est-à-dire quand ils divisent par la masse de la cellule. Après, ils ont toute une transformation pour faire une moyenne sur où sont les CH2, où sont les CH3, et ils ont assez d'inconnus et assez de variables pour mesurer une densité de masse locale, et ils peuvent tracer comme ça une densité de masse locale à trois dimensions, et ils en sont très fiers. Alors d'abord pour les bandes CH2, CH3 et H2O, et puis après directement pour les protéines, les lipides et l'eau. Donc on mesure comme ça directement la densité locale qu'on peut moyenner dans la cellule. Là aussi, la mesure est très très précise. Je vais vous montrer dans quelques minutes une expérience qui a été faite comme ça. Peut-être le message de tout ça, c'est qu'il y a pas mal de méthodes non trivial, j'allais dire, de mesurer la masse de la cellule. J'ai souvenir, quand j'ai commencé, alors ça m'a intéressé ce problème-là, il y a au moins 15 ans, avec un postdoc qui s'appelait Pierre Réchaud. Et Mathieu Piel m'envoyait presque un article par jour sur les mesures du volume, mais la plupart des gens ne faisaient pas la différence entre le volume, la masse, la densité, ils ne mesuraient qu'une seule des quantités, et parfois c'était assez subtil, c'est-à-dire j'étais pas trop capable de dire si ce qu'ils mesuraient c'était vraiment le volume. Je crois au moins que dans ces trois expériences-là, ce qu'on mesure c'est vraiment le volume de la cellule. Donc voilà pour les méthodes expérimentales. Alors il y a une autre méthode dont je voulais vous parler, qui est une méthode qui mesure la croissance de la cellule, donc la variation du volume en fonction du temps. Alors elle m'a intéressé parce qu'ils utilisent uniquement des méthodes statistiques. Alors c'est quelque chose qui remonte à loin. Le premier article, il a été fait par Collins et Richmond dans les années 60, puis ça a été repris, encore une fois, par le groupe de Mark Kishner récemment. Donc l'idée, cette fois, c'est de ne pas faire ce que je vous ai montré dans les expériences précédentes, de regarder une cellule, mais de regarder une colonie de cellules qui flotte en solution dans l'eau. Donc elles ne forment pas une masse de cellules, elles sont bien indépendantes les unes des autres. Et puis on se place dans une phase qui existe plus ou moins toujours et que les expériences arrivent à détecter, où la croissance est exponentielle. Donc le nombre de cellules en fonction du temps est exponentiel. Alors ce que suggérait Collins et Richmond, c'est de mesurer trois distributions de taille. La première, c'est à un instant T, pendant cette croissance exponentielle, la distribution de volume pour des cellules qui ne sont pas synchronisées. C'est-à-dire on voit des cellules qui sont complètement aléatoires, le nombre de cellules croît en fonction du temps, et puis on arrive à un régime stationnaire où la distribution de volume ne dépend plus du temps à part la croissance exponentielle. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent phi de T et de V. Ça, c'est des cellules non synchronisées. Après, dans les mêmes conditions, ils mesurent la distribution de taille des cellules qui viennent de se diviser. Phi indice N de T et de V. Ça, c'est les cellules qui viennent de se diviser. Elles vont par deux, évidemment, parce que quand une cellule se divise, ça apporte deux nouvelles cellules. Et puis après, ils sont intéressés au processus opposé. Ils mesurent le nombre de cellules prémitotiques. Ça, c'est les cellules qui vont se diviser. Les cellules qui viennent de se diviser, on en voit une là-haut. On a bien deux cellules filles qui sont à côté l'une de l'autre, donc c'est assez facile à détecter. Les cellules prémitotiques, c'est bien plus difficile à détecter. Donc la difficulté de l'expérience, c'est de mesurer cette chose-là. Alors, je vais vous faire un petit dessin, puis vous allez comprendre comment ça marche. Donc, je vais tracer phi de V, qui est phi de V et de T, où j'ai enlevé la croissance exponentielle. Donc, elles croissent toutes. Toutes ces choses-là croissent comme exponentielle KT, où K est le taux de croissance. C'est une courbe qui est une forme comme ça, à un instant donné. Puis on prend une bande ici, donc ça c'est phi en fonction de V. On prend une bande ici, et puis on veut faire un bilan du changement de phi de V et de T au cours du temps. On écrit d phi sur dt. Alors, il y a un facteur trivial, c'est que le volume va augmenter avec le temps. Donc si le volume de chaque cellule augmente avec le temps, il y a un flux dans l'espace des volumes. Il ne faut pas mettre la dérivée partielle comme ça, mais il faut mettre la dérivée totale. Donc il y a un terme qui est plus d sur dv de dv sur dt fois phi. Ça, c'est la dérivée convective dans l'espace V. Puis après, il faut que je regarde tous les processus qui vont changer la distribution. Alors, c'est pour ça qu'il y a ces deux distributions-là, parce que celle-là, elle change la distribution. Chaque fois que j'ai un événement prémitotique, j'ai deux cellules qui apparaissent dans cette tranche-là. Donc ça va faire deux fois d phi n sur dt. Ça c'est chaque fois que j'ai une cellule qui vient de se diviser, j'en ai deux qui se fait comme ça. Puis quand j'ai un événement prémitotique, la cellule va se diviser, donc elle part de cette région-là pour aller à des cellules qui sont à un volume V sur 2. Donc moins alors sous cette forme-là, c'est pas très simple. La première chose qu'on peut faire, c'est dire toutes ces quantités-là, phi n, elles croissent exponentiellement avec le temps, avec le même taux de croissance. Donc ça me dit que k fois phi plus d sur dv de dv sur dt fois phi égale 2 k phi n moins k phi m. Là, on y est presque. Hein. On a quelque chose qui sera proportionnel à K, qui est une quantité qu'on mesure de ce côté-là. Alors, il y a une autre astuce. L'autre astuce, c'est qu'au lieu de considérer la distribution entre V et V plus DV, on va considérer la distribution cumulée qui intègre de 0 à V. Si vous produisait grand phi. Et les primes, vous intégrez cette équation-là sur V. Je vais passer celui-là de l'autre côté. Donc l'intégrale de ça, il va y avoir quelque chose à V, il ne va rien y avoir à 0. Donc ça va donner simplement dV sur dt fois phi égale k facteur de 2 grand phi n. Moins phi m. Moins phi, ça c'est ce qu'on mesure, ça c'est l'intégrale de ce qu'on mesure, ça c'est l'intégrale de ce qu'on mesure. Et donc on arrive comme ça à mesurer pour une cellule de taille donnée la vitesse de croissance. Évidemment en moyenne, on s'attend à retrouver le taux de croissance, donc ça veut dire qu'en moyenne, la vitesse de croissance d'une cellule de rayon V, elle doit être plus ou moins proportionnelle à V. Mais on n'a fait aucune hypothèse quand on a fait ça, et par des méthodes comme ça, on arrive sans avoir jamais mesuré de volume, à mesurer la variation du volume en fonction du temps. Il y a quand même une hypothèse, c'est que la distribution est quelque part autosimilaire, c'est-à-dire qu'elle ne dépend que ce dV sur dt-là ne dépend que du volume et pas explicitement du temps, et puis que tout croît exponentiellement en fonction du temps avec le même taux, ça il le vérifie. C'est-à-dire qu'on peut tracer des courbes de croissance exponentielle. Donc après, les choses qu'il faut faire, c'est mesurer. Alors ils le font, c'est le même groupe, ils le font par leur méthode Norrie, là. Et ils calculent les distributions de taille. Alors il y en a deux qui sont faciles à calculer. Là, vous avez la distribution de taille de cellules qui sont désynchronisées. Et là, vous avez la distribution de taille de PR qui apparaissent comme ça, là, qui correspondent aux deux cellules qui sont là. Et la troisième, elle est bien plus compliquée à obtenir. Ils utilisent une astuce que je ne vais pas vous expliquer parce que ça me prendrait longtemps, mais il y a des fluctuations dans la division. La division cellulaire n'est pas tout à fait symétrique. Ça veut dire qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Donc, ils mesurent les statistiques d'asymétrie de la division cellulaire et par un hasard heureux, si on connaît ça, par un produit de convolution, ils arrivent à sortir la fraction de cellules prémitotiques, et donc ils ont tout, et ils arrivent comme ça à mesurer le taux de croissance en fonction du temps. Donc ces méthodes ont été assez appréciées dans les années 60, il y a pas mal de mathématiciens qui se sont intéressés à ça, je vous en montrerai un peu après, on arrive à faire des choses assez sophistiquées en regardant des distributions comme ça, et à trouver des vrais paramètres physiques à partir de ça. Et donc voilà pour les mesures dont je voulais vous parler. Il y a plein d'autres méthodes. Hein. La masse sèche, il suffit de sécher et de peser, hein, par exemple. Il faut connaître le nombre de cellules. Mais enfin, c'est des choses que les gens savent très bien faire, ça. Donc voilà les expériences dont je voulais vous parler. Ce dont je parlais maintenant, c'est la densité de masse sèche d'une cellule. En rho s. Rho s, c'est la masse sèche, c'est-à-dire la masse de la cellule moins la masse de l'eau, divisé par le volume. Et un résultat qui est assez communément admis, c'est qu'au cours du cycle cellulaire, la densité ne varie pas beaucoup. Alors elle ne varie pas beaucoup, surtout si on reste dans la phase G1, et puis il y a des exceptions. Toujours la méthode Norrie, c'est un peu pour ça que je voulais présenter. Donc j'ai dit qu'ils arrivaient à avoir des densités de masse de composants à l'intérieur de la cellule. On peut moyenner sur la cellule, et puis après sur plusieurs cellules. Donc ce qui tire de ces cellules, alors c'est des cellules style cellules ELA, ils l'ont fait sur plein de types cellulaires. Vous avez le nombre de protéines ici en fonction du volume. Donc le volume, c'est le déroulement du cycle cellulaire. Et vous voyez que le nombre de protéines est à peu près constant. et pardon, croît proportionnellement au volume. Les lipides, c'est un peu moins clair. Il y a beaucoup plus de fluctuations. Et si vous regardez les densités de protéines ou les densités de liquide, la densité de protéines, elle est vraiment constante au cours du cycle cellulaire. Alors, ils ont fait des statistiques là-dessus. Là, vous avez les quantités extensives. Puis ici, vous avez les densités. Alors, je ne vois pas très bien, mais il y en a une des deux qui est la densité de masse sèche. Et l'incertitude sur la densité de masse sèche qui est là est très faible. Et elle ne varie pas pratiquement au cours du cycle cellulaire. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on ajoute la masse sèche et les lipides, si on ajoute les protéines et les lipides, on a toute la masse sèche. Là, ils ont triché parce qu'ils ont considéré que le reste était négligeable. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des acides aminés libres, par exemple, dont je vous reparlerai plus tard, qui sont, de la façon dont ils le font, il me semble qu'en plus, ils sont intégrés dans les protéines, ceux-là, parce qu'ils mesurent des raies CH2 et l'arrêt CH2 et l'arrêt CH3, elles ne changent pas entre les protéines et les acides aminés. Donc ils ont ça en plus. Il y a des ions aussi, par exemple, qu'il faudrait mettre, mais en gros, ils ont la plupart du comportement de la cellule, et c'est comme ça qu'on arrive à montrer que la densité de masse sèche est à peu près constante au cours du temps, au cours du cycle cellulaire, ou au moins autour de la phase GA. Alors pourquoi s'intéresser à la densité de masse sèche? Alors je vais citer il y a un article de revue sur la densité de masse sèche de la cellule qui a été fait par Gabriel Neuroor, qui aussi est quelqu'un qui viendra faire un séminaire, avec une dame qui s'appelait Angelica Hamon, qui est une des personnes qui a fait les manips les plus pertinentes que j'ai trouvées sur le volume des cellules, mais qui malheureusement est décédée il y a quelques années. Donc on aura Gabriel Neuroor, qui maintenant est en Europe d'ailleurs, alors qu'elle venait de San Francisco. Ça, c'est un peu un panneau justificatif des raisons qui donnent de pourquoi la densité joue un rôle important dans les cellules. En gros, je vais revenir à mon cours de l'année dernière. L'année dernière, je vous ai parlé de condensats biologiques et j'avais posé la question pourquoi les condensats biologiques, c'est important. Mais les raisons sont les mêmes ici. Si vous augmentez la densité, vous augmentez les cinétiques de réactions chimiques. Ça, c'est un premier point. Alors, parmi les réactions chimiques qu'ils citent ici, il y a les formations d'agrégats de protéines. Peut-être pas pour vous tout à fait des réactions chimiques, hein, ça peut être des liaisons physiques, mais l'effet est le même. Il parle de concentration seuil de cycle de protéines comme ça. Ça va dépendre beaucoup des constantes de réaction. Et donc si on change la densité, on va changer ces choses-là. Puis après, de ce côté-là, il y a des choses un peu plus triviales. Évidemment, si la densité est plus élevée, les molécules se déplacent plus difficilement et c'est plus difficile d'injecter des gros objets à l'intérieur des cellules si la densité est élevée que si elle est faible. Et puis, il parle même de transition de phase. Si vous atteignez des densités élevées, vous pouvez créer une transition de phase. Si vous créez une transition de phase, il y a une phase diluée autour et ça change pas mal le comportement de la cellule. Donc, il y a un intérêt à maintenir la densité constante. Ça veut dire ça, que la cellule doit réguler sa densité. Alors, je vous ai montré un exemple où elle régulait sa densité. Hein. Je vous ai montré ce choc osmotique, c'est l'eau qui rentre d'abord, donc le volume augmente beaucoup, et puis après, le volume redécroît, parce qu'il y a des systèmes actifs, des pompes, par exemple, qui régulent les ions de façon à revenir à la densité que la cellule aime bien. Donc il y a des mécanismes assez précis pour la cellule de réguler sa densité. Il y a aussi des raisons physiologiques pour changer la densité. Il y en a une première qui est que quand une cellule entre en sénescence, la densité décroît beaucoup, la cellule se dilue. Ça, c'est un des résultats principaux qui a été obtenu par Neuroor et Hamon, et je vous montrerai des résultats de ça, où la cellule, quand on bloque la production de protéines, ce qui pour eux est une façon de simuler la sénescence, la cellule se dilue et la densité décroît énormément à partir du moment où la cellule rentre en sénescence. Ou, alors je ne sais pas très bien, il y a des biologistes qui vont peut-être aller, quand elle sort du cycle cellulaire, les deux se produisent, je ne sais pas si c'est exactement la même chose ou pas, mais ces deux choses-là se produisent. Quand une cellule rentre en apoptose, c'est l'inverse. La densité augmente quand une cellule rentre en apoptose. C'est très propre à l'apoptose, c'est de la mort cellulaire programmée, donc il y a des petits paquets de cellules qui se forment et qui sont éliminés petit à petit. Et ça, ça passe par une augmentation de la densité. Il y a d'autres cas, alors qui étaient moins évidents pour moi. Il y a parfois des changements de densité lors de la différenciation cellulaire, ça existe, ou de changement d'état métabolique de la cellule. Donc voilà, la densité est un paramètre important et là aussi il y a besoin de mécanismes de régulation qui dans certains cas sont simples et qui dans d'autres cas vont s'avérer être bien plus compliqués. Donc voilà ce que je voulais dire sur la densité. Ça finit un peu mon tour très très rapide. C'est tous ces phénomènes-là que je vais essayer d'expliquer pendant le cours. Ce que je voulais vous montrer par ça, c'est qu'on a pas mal de données en fait sur les volumes de cellules, sur la façon dont ils varient, sur la longueur du cycle cellulaire. Il y a plein d'hypothèses qui ont été faites sur quelle est la durée du cycle cellulaire, et c'est ce genre de choses que je voudrais discuter à la lumière des expériences qui sont là. Après, j'ai mon chapitre suivant, un titre un peu plus pompeux. J'ai appelé ça « Physique du volume cellulaire ». Alors, la chose dont je voudrais parler, ou partir, c'est cette expérience-là, alors qui est presque la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle est faite 20 ans après, elle n'est pas faite au Danemark, elle est faite à l'Institut Curie, mais c'est un choc hypoosmotique. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a des tas d'échelles de temps qui rentrent là-dedans et que c'est important de regarder la physique du volume cellulaire à différentes échelles de temps. Alors la première échelle de temps, c'est l'équilibre mécanique. Il n'y a pas d'inertie pour les cellules, je répète ça depuis que je fais des cours ici. S'il n'y a pas d'inertie, ça veut dire que l'équilibre mécanique, il est instantané. Ça compte, hein ? Parce que à la surface de la cellule, il y a une tension. Et donc, s'il y a une tension, il y a une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et cette différence de pression, elle est donnée par la loi de Laplace. C'est-à-dire, c'est deux fois la tension divisée par le rayon. Et quand les cellules se déforment, bien sûr, les effets mécaniques sont importants. Mais ça, c'est instantané. Après, il y a des effets osmotiques sur lesquels je vais passer plus de temps. Alors les effets osmotiques pour moi, ça va être les échanges d'eau et les échanges d'ions. Ça se fait en quelques minutes. L'eau, c'est très rapide. Les ions, c'est quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. C'est ce que vous voyez ici. Hein. Le premier événement qui se produit, c'est l'accroissement du volume à toute vitesse. Alors, je dis une minute, mais si ça se trouve, c'est qu'on n'a pas mesuré assez vite, et donc c'est peut-être encore plus rapide que ça. Ça peut être des secondes ou des choses comme ça. Alors, les molécules d'eau rentrent dans la cellule. Si vous prenez une vésicule, les molécules d'eau ne peuvent pas rentrer dans la vésicule parce que la membrane d'une vésicule est imperméable. Ça veut dire que la cellule a quelque chose qui permet aux molécules d'eau de rentrer. Il y a des canaux pour l'eau, comme il y a des canaux pour les ions. Alors les canaux pour l'eau, ils sont bien connus, ça s'appelle des aquaporines. à cause de ces des aquaporines, il y a un flux d'eau qui peut rentrer dans la cellule dès qu'on a fait le choc hypoosmotique. Si on a fait ça, la cellule se dilate. Il faut dilater la surface aussi. Et à la surface, je vous ai dit qu'il y avait une tension. Alors la tension, elle n'est pas tendue à la membrane qu'à la couche d'actine corticale qui est en dessous. Ce que dit cet article, c'est que le premier événement qui va se produire, c'est comme on tire trop fort sur la couche d'actine corticale, elle va se décrocher au moment où l'eau rentre. Après, il y a des échanges d'ions. Donc il y a des canaux ioniques. Les canaux ioniques sont spécifiques, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes canaux pour des ions différents. Les ions dont je parlerai, c'est les ions sodium, potassium. Il y en a un dont je ne parlerai pas, mais qui est toujours là, parce qu'il faut que la nature soit neutre, c'est donc l'onchlorure. Alors vous verrez que je décris ça de façon très très approximative, mais ça veut dire qu'il y a une perméabilité de la membrane aux ions, et que ces ions doivent passer par des canaux. Par exemple, ça dépend du nombre de canaux qu'il y a à la surface de la cellule. C'est pas la seule chose qui se passe. Les canaux, c'est complètement passif, ça veut dire que ça consomme pas d'énergie et les ions peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Il y a des pompes aussi. Alors pour le coup, tout ce que j'ai pu lire dit qu'il n'y a pas de pompe pour les ions chlorure, mais par contre il y a des pompes pour les ions calcium, pour les ions sodium et pour les ions potassium, et même il y a un échangeur qui prend le sodium à l'intérieur, qui va le mettre à l'extérieur, et qui prend le potassium à l'extérieur, qui vient le mettre à l'intérieur. C'est une vraie pompe à ions, parce que cette pompe-là, elle enlève 3 ions sodium pour les mettre à l'extérieur, mais elle ne fait rentrer que 2 ions potassium. Donc elle expulse des ions positifs de la cellule. Et toute l'histoire de l'équilibre osmotique de la cellule, c'est ça l'élément essentiel, parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de volume stable de la cellule au niveau osmotique. Donc voilà un peu les mécanismes osmotiques. Si je regarde là, donc l'événement qu'ils ont mis, vous voyez les pompes ici et les ions. Ce qui est important, c'est que les pompes consomment de l'énergie. On recolle le cytosquelette, il est étiré, donc à un moment, il va falloir qu'il relâche. Il y a aussi un problème avec la membrane, donc à temps plus long, si la surface est plus grande, il faut ramener des lipides pour la membrane. Le modèle classique du volume cellulaire sur lequel je passerai le cours prochain. Alors, comme on est au Collège de France, je me suis permis de traduire le titre anglais. Je vais appeler ça le modèle pompe et fuite. Dans tous les livres que vous arriverez à ouvrir, même s'ils sont en français, ça s'appelle Pump and Leaks. Mais j'ai fait du zèle. Donc ça, c'est un modèle qui s'est développé petit à petit, jusque dans les années 60. Et les deux personnes qui finalement ont stabilisé ce modèle et formalisé le modèle tel que les gens les utilisent aujourd'hui s'appellent Hoffman. Et Tostesson. Je ne vais rien vous épargner parce que les voilà tous les deux. C'était des étudiants de Hopkins, celui de Hopkins et Huxley, donc qui, dans un labo où on travaillait sur la propagation des potentiels d'action et des choses comme ça. Et c'est eux qui, c'est pas du tout les premiers à avoir mis ces choses-là, mais c'est eux qui ont un peu figé le modèle dans l'état où les gens l'utilisent. Il y a un article assez rigolo. Donc eux, c'est des étudiants d'Hopkins. Il y a les petits-enfants qui s'appellent Kay et Blaustein qui ont écrit un article sur l'histoire du modèle de pompe et fuite et qui raconte comment le modèle s'est développé petit à petit et on a introduit petit à petit tous les éléments qu'il fallait pour arriver à avoir quelque chose qui décrirait bien les manips. L'élément principal, c'est donc cette pompe sodium-potassium que j'ai décrite, NKP, ça s'appelle dans les articles. Il sort 3 sodium et il rentre de potassium. Je croyais que c'était eux qui avaient introduit ça. Ce que dit l'article, c'est que c'est Hopkins qui, dans une conférence, a dit que peut-être les gens qui travaillaient sur le volume de la cellule devraient inclure cet élément dedans. Je pense que c'est ça qui a débloqué complètement le problème. C'est absolument évident, vous verrez la prochaine fois. Dès qu'on a écrit deux équations, on voit qu'il n'y a pas de solution stable s'il n'y a pas de pompe. Alors le modèle, il est schématisé ici. En gros, la cellule, c'est un sac. Dans le sac, il y a des molécules qu'ils appellent imperméantes. Ça, c'est les molécules qui n'arrivent pas à traverser la membrane de la cellule, ou certaines qui sont rejetées à l'intérieur quand elles essayent de traverser. Ces molécules, c'est les protéines, c'est l'ADN, si vous voulez prendre le noyau en compte, et c'est les ARN. Quelque part, ce qui domine, si on mesure la masse, c'est les protéines, et l'ADN et les ARN sont tout petits par rapport à ça. Mais la nature est neutre. Et donc s'il y a plus de molécules comme ça négatives, il faut des ions positifs. Et le cœur du sac doit rester neutre quoi qu'il arrive. C'est-à-dire même si j'ai des pompes qui pompent autant qu'elles peuvent, c'est-à-dire même si j'en ai éjecté 10 à la fois au lieu d'en éjecter qu'un, il restera dans la cellule des ions positifs parce qu'il faut neutraliser ces protéines qui sont là. Donc quand vous éjectez les ions positifs, en fait ce que vous videz c'est les ions chlorure. Parce que comme elle est neutre au départ et que vous avez éjecté un ion positif, les ions chlorure vont sortir par un effet osmotique passif, lui, pour assurer la neutralité. Donc le cas limite de ça, c'est le cas où il n'y a plus d'ions chlorure, enfin, ou plus d'ions négatifs à l'intérieur de la cellule. Donc voilà la composante osmotique qui est la composante principale du modèle. Et après, ils mettent une tension à la cellule. Et donc, ils écrivent que la différence de pression est donnée par la loi de Laplace. Mais cet effet, pour la cellule elle-même, est assez faible. Et donc, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter là-dessus. Alors, messieurs Kay et Blaustein, dans leur article, à la fin, se plaignent que le modèle de Torstenson et Hoffman soit pas aussi célèbre que le modèle de Hodgkin et Huxley. Moi, j'avoue que l'article de Hodgkin et Huxley, c'est David Lacoste qui me l'a amené un jour. J'en suis resté. C'est éblouissant. Celui-là, c'est bien, mais ça me paraît pas tout à fait au même niveau. Enfin, ils regrettent presque à la fin de l'article qu'ils aient pas eu le prix Nobel pour ça, ce que je trouve un petit peu exagéré. Ceci dit, le modèle que les gens utilisent de nos jours, c'est encore ça, et alors ils le sophistiquent, ils rajoutent des effets, des trucs comme ça, mais le modèle de base, c'est ce modèle, la cellule est un sac. Bon, ce qu'on sait aujourd'hui quand même, c'est qu'il faut prendre en compte le noyau qui est à l'intérieur, mais on utilise le même modèle entre la cellule et le noyau, que ce qu'on fait, c'est aussi un sac à l'intérieur de la cellule, le noyau. Donc voilà le modèle osmotique. Ça finit pas mon histoire, parce que à temps plus long, Il y a un comportement actif de la cellule. La cellule veut croître, et donc à temps plus long, il faut prendre en compte la croissance de la cellule. Donc dans ce modèle-là, les protéines qui sont imperméantes, qui sont au milieu, elles restent coincées au milieu, et on travaille à composition de la cellule constante. Quand la cellule croît, elle fabrique des protéines en phase G1, hein, c'est son travail principal. Et donc il faut coupler ça, ce modèle-là, la croissance de la cellule. Les échelles de temps sont très différentes, donc c'est très simple. À chaque instant, on regarde la concentration à l'intérieur de la cellule et l'équilibre osmotique se fait bien plus vite. Donc il suffit d'utiliser le résultat statique et de dire que ça suit adiabatiquement la croissance de la cellule. Donc les propriétés, après ces instants initiaux où se font les équilibres mécaniques et osmotiques, sont faites par la croissance de la cellule. Alors j'ai presque fini cette histoire-là avant de passer peut-être au début du chapitre suivant où je vous parlerai un peu d'effets osmotiques. Il y a deux effets dont je n'ai pas parlé et je vais revenir à... Je vais revenir à M. Edmund Wilson du début, parce qu'il s'était déjà posé ces questions-là, et les réponses qu'il avait sont presque celles qu'on a aujourd'hui. Les deux effets dont on a parlé, c'est quid du volume du noyau par rapport au volume de la cellule, et puis il y a une question qui va avec, c'est qu'est-ce qui se passe quand on change la ploïdie. Donc vous savez que nos cellules à nous, par exemple, elles ont deux copies des chromosomes, et par des méthodes que j'ai lu, mais que je suis incapable de vous expliquer. On arrive à faire des cellules haploïdes qui ont une seule copie du chromosome. On arrive à faire des cellules diploïdes, tétraploïdes, qui ont quatre copies du chromosome. Donc très vite, et les deux personnes qui ont joué là-dessus, c'est Théodore Boveri qui est là, et puis un monsieur qui s'appelle Robert Hertwig. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé l'haploïdie, puis ils ont mesuré la taille du noyau et la taille de la cellule, et ils ont regardé comment la taille du noyau changeait quand on change la taille de la cellule avec cette chose-là. C'est un peu difficile de regarder en détail. Je vous avoue que j'ai passé du temps à essayer de compter que le nombre de chromosomes est bien multiplié par 2 ou par 4, il n'y a pas de problème, ça fait ce qu'ils disent. Si vous faites des cellules tétraploïdes, elles sont plus grosses, et le noyau est plus gros. Et quand on trace le rapport des deux, on trouve que le volume est proportionnel à l'haploïdie et le volume du noyau est proportionnel à l'haploïdie. Donc ça, c'est le résultat de Hertwig, qui est encore avant ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'était en 1903 et il a inventé ce nom de rapport carioplasmique. Ça, c'est le volume du noyau divisé par le volume de la cellule. La notation traditionnelle, c'est NC. Et c'est le volume du noyau à temps suffisamment long. Si vous mesurez le rapport carioplasmique, il est en gros constant, sauf cas un peu exceptionnel. Donc ça, c'est l'article original. Alors, je comprends tous les mots allemands, sauf celui-là. Je l'ai mis dans Google Translate, il m'a donné des résultats un peu bizarres. Après, j'avais par hasard l'administrateur du Collège de France en face de moi, qui est allemand. Il m'a dit que ça voulait dire sexuel, mais la différenciation sexuelle, ça ne me paraît pas terrible. Donc, je ne sais pas très bien ce que veut dire ce mot-là, que Geschlecht. Enfin, tout le reste, c'est facile. Hein, c'est les rapports du volume de corrélation entre le volume de la cellule et le volume du noyau qui est ce qui m'intéressait. Et après, visiblement, il s'intéresse à la différenciation. Tellement que 2 ans après, alors là pour le coup ça a été traduit, et pas par n'importe qui, mais ça a été traduit dans un article de Paul Nurse, la constante qu'on doit considérer comme quelque chose de donné est le rapport carioplasmique. Donc au cours du cycle cellulaire, le rapport carioplasmique ne change pas. C'est au moins vrai dans les étapes de croissance exponentielle. Alors c'est vrai, mais pas toujours évidemment. Et je n'avais pas vraiment d'exemples à vous donner de pourquoi et où c'était pas vrai. Et j'ai été au séminaire de l'Institut Curie mercredi, et on m'en a servi un sur un plateau. Donc j'ai été voir l'orateur et je lui ai demandé sa slide. Alors j'en ai condensé 2, mais donc il s'appelle Matthias Weiss. Il est professeur à l'université de Bayreuth. Et ce qu'il étudie, c'est les premières divisions du vers et élégance. Alors ces divisions, donc au début on a un œuf qui est une seule cellule, puis après ça se coupe en 2, il y a 2 cellules, puis après ça se coupe encore en 2, il y a 4 cellules, mais ça se fait à l'intérieur de la coquille et la coquille ne croît pas. Donc les cellules sont de plus en plus petites, donc le volume total est égal au volume de la coquille, et donc le volume à la énième division, c'est V sur 2 puissance N. Il y a une histoire aussi que les cellules ne produisent pas beaucoup de protéines, donc ce n'est pas très choquant. Enfin, elles arrivent à assimiler, à assumer ces choses-là en ayant suffisamment elles-mêmes de quoi se maintenir en vie, malgré ces divisions-là. Alors, les mesures sont magnifiques, hein, ils digitalisent la cellule et des choses comme ça. Et puis après, ce qu'ils tracent, c'est le volume du noyau en fonction du temps. Alors, c'est une courbe qui est comme ça, et puis si on, dans certains cas, elle va saturer vers une constante. Donc il fit ça par une exponentielle, et s'il ramène les constantes de, s'il rééchelle les constantes de temps, tout va sur la même courbe. Donc il dit ça, c'est une constante 1 moins exponentielle moins t sur le temps. Et puis il a 2 volumes caractéristiques, il a le volume de saturation ici, et puis le volume où se fait la division cellulaire. Si on trace le volume où se fait la division cellulaire, il croît comme le volume de la cellule, sauf que ça, c'est en log-log, et la pente n'est pas égale à 1. Donc ça veut dire que pour cette chose-là, le volume du noyau croît comme une puissance une puissance inférieure à 1 du volume cellulaire. Et, pardon, c'est celui-là. Et la puissance, c'est 0,65. Alors 0,65, il n'y a pas besoin d'être très imaginatif pour dire que c'est comme 0,66. Et 0,66 est 2 tiers. Et ça voudrait dire que c'est proportionnel à la surface de la cellule et pas au volume. Il a un argument pour ça, je serais incapable de vous l'expliquer parce que je ne l'ai pas compris. Il me l'a re-expliqué et je n'ai pas suivi. Je ne saurais pas dire si cet argument, il faut le croire ou pas. Par contre, si vous allez chercher l'asymptote du volume, vous tracez l'asymptote. Alors, il fit la courbe jusque-là, puis après, il dit ça va vers l'asymptote. L'asymptote elle-même, elle est bien proportionnelle au volume de la cellule. Donc, il y a un volume théorique que la cellule pourrait avoir qui est proportionnel au volume de la cellule, et puis il y a un volume réel mesuré qui est proportionnel à la puissance 2 tiers du volume de la cellule. Donc voilà, ça a fini le premier cours, et je vais juste commencer à vous raconter des choses qui relèvent du deuxième cours que j'avais, qui sont assez différentes. Ce dont je veux vous parler, c'est de la physico-chimie de la cellule. Le but, c'est d'aller jusqu'au modèle pompe et fuite. Je vais effacer ce titre-là. Et je vais appeler ça modèle osmotique. Donc, mon but, c'est de vous redériver de façon assez simple ce modèle de Tostenson et Hoffmann qui sont encore là. Et après, d'essayer de voir comment on peut comparer ça à des résultats expérimentaux sur des cellules. Alors, le premier chapitre, j'ai appelé ça physico-chimie de la cellule. Et ce que je voudrais faire pour l'instant, c'est discuter de potentiel chimique et de pression osmotique. Bon, je vais considérer que la cellule, c'est un sac. Il y a un solvant qui est l'eau, et la plupart de la masse, c'est l'eau. Et puis, à l'intérieur de la cellule, il y a des solutés. Donc, je numérote les solutés. Je les appelle I, 1, 2, 3, 4, jusqu'à quand vous voulez. Les différences que je veux faire, c'est qu'il y a quand même deux types de solutés. Il y en a qui sont des polymères, c'est les protéines, c'est l'ADN, c'est l'ARN, et puis il y en a qui sont des petites molécules. Alors parmi les petites molécules, je ne vais pas parler des lipides, parce que les lipides, ils sont beaucoup sur les membranes, donc ils ont un comportement un peu spécial, mais il y a au moins les ions qui assurent l'électroneutralité, donc il y a des ions positifs et négatifs, il y a des acides aminés libres, et tous ces objets sont des objets qui sont passifs, donc au moins pour ça, on peut faire la thermodynamique des solutions. Alors la thermodynamique des solutions, ce qui est simple, c'est de supposer que la solution est diluée. Diluée, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'interactions, que les interactions ne comptent pas. Je vous dirai dans une minute qu'on sait faire, hein, aller plus loin, il y a des modèles qui marchent très bien pour faire ces choses-là. Mais si on a une solution qui est diluée, le potentiel chimique d'un soluté, μi, alors j'insiste que c'est vrai pour les solutés, mais que ce n'est pas vrai pour l'eau. Hein. C'est μi, c'est kt log de ni, ou je vais mettre ci, pardon. Ou ci, c'est la concentration dans le soluté, c'est-à-dire c'est le nombre de molécules dans la cellule divisé par le volume de la cellule. J'insiste sur le fait que si j'ai un polymère, je prends le nombre de polymères divisé par le volume de la cellule. Ici, il faut mettre un volume, je vais l'appeler VI, et je vais vous dire dans une minute ce que c'est en gros le volume d'une molécule. Ça, c'est le terme d'entropie, c'est un terme de gaz parfait. Après, s'il y a des ions, dans différents points de l'espace, le potentiel peut être différent, donc il y a une contribution électrostatique, donc plus ZI. Psi. E, c'est la charge élémentaire, psi, c'est le potentiel électrostatique local, et Z, c'est la charge. Donc ça, c'est la partie du potentiel chimique qui dépend du potentiel extérieur et des concentrations. Puis après, il y a un potentiel chimique mu I0. Ça, c'est la théorie des solutions idéales ou des solutions régulières. Alors, il faut que je vous dise ce que c'est VI. si j'écris le volume V total comme une fonction des nombres de molécules Ni, T et P, ça c'est des variables extensives, ça c'est des variables intensives, et il est à peu près clair ou évident, et si je vous disais l'inverse, vous me sauteriez au cou, que si je multiplie par 2 le nombre de molécules, je vais multiplier par 2 le volume. Donc je peux utiliser le théorème des fonctions homogènes de l'air ou de je ne sais qui dit que V c'est somme sur I de VI NI ou VI ça veut dire que je peux écrire en calculant, donc il faut que je le fasse à température et pression constante. Si vous voulez que je fasse les choses proprement, en définissant le volume moléculaire partiel comme ça, ça c'est une relation purement mathématique, ce que je vais supposer c'est que la solution est incompressible. C'est-à-dire que VI est une constante. Ça veut dire qu'elle est indépendante de T, de P, mais aussi de toutes les concentrations dans le système. C'est-à-dire que je n'ai pas d'effet de dilatation, de contraction quand je fais le mélange. Chaque molécule a son volume. Une remarque, c'est que si j'ai un polymère, le volume est bien plus grand pour le polymère que ce qu'il est pour un petit ion, parce que c'est le volume de la molécule. Donc voilà ce que j'ai mis ici dans ce terme entropique. Ça, c'est le potentiel électrostatique. Alors maintenant, il reste ce terme-là. Il y a une autre relation magique que VI, c'est d mu I sur dp. Parce que ça, c'est dv sur dni. Donc ici, il faut que je mette à ni constant, à t constant, et à ni constant, et ici à t. Donc je peux calculer le volume moléculaire partiel en prenant la dérivée du volume total par rapport au nombre de molécules, ou je peux calculer la dérivée du potentiel chimique par rapport à la pression. Ça c'est vrai, c'est pas simplement vrai pour les solutions, c'est vrai, c'est une relation thermodynamique, c'est une relation de Maxwell en thermodynamique cette histoire-là. Donc voilà ce que représentent tous les termes qu'il y a là-dedans. J'insiste sur le fait que c'est pas vrai pour le solvant. C'est pas vrai pour le solvant parce que ici j'ai supposé que la densité était faible. Pour le solvant, la densité n'est pas faible, elle est grande. Alors vous allez me dire, il y a toujours un terme comme ça, et si on fait des modèles de réseau, on trouve ce terme comme ça. Mais si on écrit que ce terme-là, on viole la relation de Gibbs-UM, qui est pareil, qui est une relation comme celle-là, hein, qui est due à l'homogénéité du système. Donc je peux calculer le potentiel chimique des solutés, mais je ne peux pas calculer le potentiel chimique du solvant. Donc voilà pour les ions. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe pour le solvant. Et la quantité qu'on définit pour le solvant, c'est ce qu'on appelle la pression osmotique. Mon commentaire sur la pression osmotique, c'est que tant que j'ai pensé que c'était une pression, je ne comprenais rien. Et un jour, je me suis aperçu que c'était un potentiel chimique. Et si vous dites que la pression osmotique est un potentiel chimique, tout est transparent. Bon, après, dans les relations que je vais vous montrer la semaine prochaine, vous verrez bien pourquoi les gens appellent ça une pression, mais il y a des expériences où on la mesure en mesurant les différences de pression. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vrai potentiel chimique. Alors, la pression osmotique, c'est relié au potentiel chimique de l'eau. Donc, pi, c'est moins 1 sur le volume moléculaire de l'eau, fois mu du solvant, moins mu du solvant 0. Celui-là, il dépend de T et de P. Ça veut dire que je prends le potentiel chimique du solvant, je retranche un état de référence, et cet état de référence, je le prends à la même pression que celui où est ma solution, et à la même température, et l'état de référence, c'est l'état où il n'y a pas de soluté. Et c'est l'écart du potentiel chimique à cet état de référence qui me donne la pression osmotique. potentiel chimique, c'est une énergie. Et comme on va en faire quelque chose qui est homogène à une pression, il faut diviser par le volume de la molécule d'eau. Et en faisant ça, on a le potentiel chimique. En raisonnant comme ça, les molécules d'eau, elles vont là où le potentiel de l'eau est le plus bas. Et on comprend absolument tous les effets osmotiques sans trop se torturer. Pour une solution qui est diluée comme ça, la pression osmotique, donc c'est la constante de Boltzmann fois la température, fois somme sur tous les solutés, DCI. Ça, c'est la même formule. Alors, ça s'appelle la théorie des solutions régulières ou des solutions idéales. Oublions la différence, c'est pas fondamental, et en plus je l'ai oublié. Mais ça, c'est la même formule que la formule pour un mélange de gaz parfait. Vous multipliez par V de l'autre côté, et vous avez PV égale somme de NKT. Alors, je travaille avec les nombres de molécules, vous avez peut-être appris ça avec la constante R des gaz parfaits. Je préfère utiliser la constante de Boltzmann, mais ça, c'est uniquement une question de goût. Donc, dans cette approximation de solution diluée, en gros, les solutés sont un gaz parfait qui tremble dans le solvant. Comment je fais ça? Il faut utiliser la relation de Gibbs-Duhem. Je ne vais pas vous le faire, mais une fois que vous verrez comment on fait, vous y arriverez facilement. Somme sur tous les corps maintenant, y compris le solvant, de C, I, mu, I, C, I, D, mu, I, égale 0. Ça, c'est à température et à pression constante. Si vous écrivez, vous faites un petit changement de toutes les densités, delta C, vous écrivez que le potentiel c'est ça, en une ligne vous allez obtenir la pression osmotique de la solution. J'ai plusieurs remarques à faire avant de m'arrêter. D'abord, tous les NI ici, tous les CI ne sont pas équivalents. Ils ne sont pas équivalents parce que à masse égale, j'aurai beaucoup moins de molécules de polymère que ce que j'ai de molécules de petites molécules. Donc ça veut dire qu'en général, les polymères là-dedans, ils ont une densité par unité de volume ou un nombre qui est extrêmement faible. Donc à l'ordre 0, on peut presque oublier les polymères quand on calcule la pression osmotique. Alors c'est vrai dans la cellule, mais si vous faites de la physico-chimie des polymères, Françoise par exemple, elle sait faire ça très bien, elle l'a fait 1000 fois dans sa vie, mais il faut bien penser que ce n'est pas les polymères qui contribuent à ça. Les polymères, ils font la masse, mais leur nombre est très faible et donc ils contribuent presque pas à la pression osmotique. Deuxième chose, j'ai supposé qu'il n'y avait pas d'interaction. Vous allez me dire que c'est un peu osé. D'abord, on sait faire, c'est-à-dire il y a des modèles théoriques pour des polymères en solution et des choses comme ça. On peut utiliser la théorie de Flory-Huggins. La théorie de Flory-Huggins fait ce qu'on appelle un développement du viriel, c'est-à-dire qu'il y a des corrections ici, en carré des concentrations, etc. etc. Ça change un peu quantitativement le résultat, mais souvent les corrections qu'on a sont petites, et donc, parce qu'il y a des petits ions, les corrections qu'on a sont petites, et donc c'est ça le résultat principal. C'est un tout petit peu plus subtil s'il y a des ions. J'ai parlé de ça dans mon cours de l'année dernière. S'il y a des ions, il y a un terme qu'on appelle un terme de polarisation qui est dû au fait que si vous vous placez dans un sel, autour d'un ion positif, il y a plus d'ions négatifs et l'ion positif attire les ions négatifs. Donc ça crée un terme qui est un peu plus singulier, mais on peut vérifier en calculant des ordres de grandeur que ces termes-là sont petits. Donc ça paraît un peu abusif et mon but n'est pas tellement de vous faire des choses que je pourrais comparer avec 35 paramètres à des résultats expérimentaux. Je veux essayer de sortir un peu la physique principale. Le point que je veux faire ici, c'est que si on insiste, on sait faire. Alors, il y a des paramètres, hein, bien sûr, il y a des paramètres d'interaction de Flory et des choses comme ça, mais en prenant ces choses-là, on arrive très bien à introduire les interactions. Voilà, je m'arrête là. Et donc, la semaine prochaine, j'essaierai de transformer ça dans le modèle de pompe et fuite. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.